une parenthèse dans notre série commencée dans l'évangile de Matthieu. Mais on reste dans Matthieu. Seulement, on est au chapitre 24 ce matin, les versets 1 à 14. Et avant, je vous dirai quelques mots d'introduction. Matthieu 24, versets 1 à 14. Si vous lisez le chapitre qui précède, c'est un chapitre qui, je dirais, est un peu à l'opposé de ce qu'on a dans les Béatitudes, où le Seigneur bénit, heureux, heureux. Et dans le chapitre 23, nous avons plutôt une succession de malédictions prononcées contre les pharisiens et les chefs religieux de ce temps, qui sont la représentation même de l'état spirituel du peuple d'Israël à la fin du ministère du Christ, c'est-à-dire un endurcissement persistant contre le Messie. Comme il est dit ailleurs, ils n'ont pas reconnu celui qui les visitait. Et à la fin du chapitre 23, le Seigneur annonce la destruction de Jérusalem, du temple et de Jérusalem. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'une telle destruction arriverait, et ils l'ont souvent annoncé en même temps que la fin du monde. D'où vous allez voir après la question un peu mêlée des disciples dans le chapitre 24. Nous lisons encore quelques mots, pardon. Je crois que c'est un chapitre d'actualité, parce que certainement plusieurs d'entre vous, sinon en ce moment, en tout cas peut-être il y a 2 ans, 2-3 ans, au moment du Covid, après, quand on a entendu aussi peut-être le début de la guerre en Ukraine, plusieurs d'entre nous, et même des non-chrétiens, se posent la question. Où va le monde ? Quelle est la suite ? Quelle sera la suite de ces événements de plus en plus chaotiques ? Et peut-être pour nous la question plus précise, c'est en tant que chrétiens, quel regard nous devrions porter sur les événements actuels ? Y a-t-il un regard spécifiquement chrétien à porter sur ces événements ? Il est évident que de telles circonstances peuvent être une source d'inquiétude. On se pose plein de questions concernant l'avenir. Et selon les réponses qu'on apporte à nos questions, ou selon la manière dont on gère nos manques de réponses, on peut être poussé à des choix de vie ou des comportements qui sont malheureusement... qui nous font sortir de ce que Dieu attend de nous, qui nous donne des priorités qui ne sont plus tellement celles que Christ, notre Seigneur, voudrait que nous ayons. Et nous avons besoin, vous avez besoin, d'une parole sûre, d'une parole certaine concernant l'avenir, une parole qui soit bien différente de ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias. Non pas que les médias ne puissent pas nous donner des informations qui soient justes, mais évidemment la perspective sera très limitée, à la fois dans le temps, mais aussi en ce qui concerne les choses spirituelles. Or, ici, dans ce texte, nous avons une prophétie du Seigneur. Quoi de plus ferme, quoi de plus certain et de plus sûr concernant l'avenir de notre monde. Et donc, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Vous voyez, le Seigneur parle de la destruction du temple et eux associent cela à la fin du monde. C'est simplement parce que les prophéties de l'Ancien Testament, bien souvent, plaçaient les deux ensemble sans forcément donner de précision temporelle sur la distinction des deux événements. Verset 4. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jusqu'ici la lecture. Mon objectif ce matin, c'est de montrer que Jésus nous enseigne à ne pas regarder aux événements chaotiques et bouleversants du monde comme des indicateurs fiables concernant l'imminence de la fin du monde et du retour du Christ. Pour le dire autrement, si nous voulons savoir à quel point le Seigneur est proche, à quel point il est prêt de revenir, il faut plutôt regarder à l'avancement et au progrès de l'évangélisation dans le monde, plutôt qu'à l'état de santé du monde. Et donc, nous verrons deux points ce matin. Le premier, la bonne analyse de la situation actuelle, au travers de ce que le Seigneur dit aux apôtres. Et deuxième point, la bonne priorité dans la situation actuelle. Alors j'actualise beaucoup parce que, comme on va le voir, il va être question d'événements qui concernent autant les apôtres au 1er siècle et les premiers chrétiens que nous aujourd'hui. Premier point donc, la bonne analyse de la situation actuelle. Imaginez un homme qui demande à un ami qu'il lui prête sa voiture. Cet ami donc fait le petit trajet qui le sépare de son camarade qui lui a fait la demande et il lui donne les clés, il lui remet les clés. Cet homme donc qui a fait l'emprunt s'assoit dans la voiture, rentre les coordonnées de sa destination dans le GPS, met le contact et se met en route. Imaginez maintenant que cette voiture qui, je ne vous l'ai pas dit, mais a des problèmes électroniques, il y a des voyants qui s'allument tantôt et s'éteignent de manière intempestive, mais c'est un problème uniquement électronique, électrique. Ça ne signale pas réellement un problème avec le véhicule. Mais cet homme n'est pas au courant. Et le voilà en train de rouler 30, 40 km. Et à 10 km de l'arrivée, il commence à voir le voyant d'huile qui s'allume, le voyant d'eau qui s'allume, et évidemment, ce sont des voyants rouges. Hein. Quelle serait sa réaction d'après vous? Il commencera certainement à être un peu inquiet, se demandant « Mais j'espère déjà que je n'ai pas abîmé la voiture de mon ami, et là, je ne vais pas pouvoir terminer mon trajet. » Voyant rouge, ça indique certainement que le véhicule risque incessamment sous peu d'être accidenté. Et donc, il s'arrêtera et ne pourra pas terminer son trajet. Maintenant, la même situation, mais avec des informations supplémentaires. L'ami, donc, apporte sa voiture et précise, elle sort du garage, voilà tout ce qui a été fait comme travaux. Elle est nickel, il y a assez d'huile, assez d'eau pour le refroidissement. Seulement, il faut que tu sois au courant, il y a un problème, un bug électronique. Et donc des voyants s'allument et s'éteignent tantôt. Mais ce n'est pas du tout un souci, lorsque tu verras ça, continue ton trajet, tu pourras arriver à bon port sans problème. Alors, certains d'entre nous peut-être hésiteraient quand même. Mais celui qui prête sa voiture est connu pour sa fiabilité. C'est un homme sérieux et connu pour son honnêteté. Et donc, lorsque cet ami qui a emprunté la voiture roulera, au bout de 40 km, 50 km, les voyants s'allument, s'éteignent. Il y a la tentation, n'est-ce pas, de se dire, est-ce que je continue ou pas? Mais parce qu'il a eu l'information, avant de prendre la route, de cet ami fiable, eh bien, il continue son chemin, son trajet, et arrive effectivement à bon port. Autrement dit, en fonction des informations que nous avons, nous prenons ou pas les bonnes décisions. Nous avons un regard et une analyse de la situation qui va radicalement varier. Et donc je vous raconte un peu cette anecdote ou cette illustration parce qu'il me semble que c'est ce que le Seigneur Jésus fait dans notre texte. Il est en train de donner à ses apôtres des informations nécessaires pour éviter de mauvaises réactions lorsque des catastrophes vont arriver quelques années plus tard, notamment lors de la destruction du temple et de Jérusalem. Et ces informations sont nécessaires parce qu'il y a vraiment la possibilité pour les chrétiens à cette époque de se tromper. La parole de Dieu, premièrement, hein, un des éléments qui montre que c'était possible de se tromper, la parole de Dieu annonce que la fin du monde arrivera dans un contexte de bouleversement terrible. Des événements cosmiques dans le ciel, des guerres sur la terre, des fléaux en tout genre. Dieu nous dit que c'est bien dans de telles circonstances qu'il mettra un terme au monde tel qu'on le connaît actuellement. Et donc on voit que le raccourci est vite fait dans la tête des premiers chrétiens de se dire, mais certainement le Seigneur arrive bientôt. Deuxième raison qui montre que c'était tout à fait probable que les apôtres et les chrétiens puissent être troublés, la Bible annonce que à la fin des temps, il y aura aussi un accroissement de l'immoralité. Si vous regardez avec moi, on est toujours dans ce chapitre 24, verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et si vous prenez le livre de l'Apocalypse et d'autres épîtres des apôtres, nous trouvons cette affirmation que le monde n'ira pas de mieux en mieux, mais de mal en pis. Et donc là encore, la tentation, lorsque nous sommes dans une période particulièrement mouvementée en termes de mœurs, de nous dire, ah, ne sommes-nous pas à la fin? Je vous donne encore deux autres, raisons qui auraient pu pousser les apôtres à mal interpréter les temps et les circonstances. Eh bien, le Seigneur nous parle de faux messies, vous l'avez lu avec moi, et de faux prophètes. Verset 4, nous lisons, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Si le Seigneur leur dit faites bien attention, c'est qu'il y a un risque potentiel. Verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Regardez encore au verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. Et la chose est arrivée à l'époque même des apôtres. Dans 2 Thessaloniciens, on ne va pas prendre ce texte, mais ceux qui prennent des notes, au chapitre 2, nous lisons que l'apôtre écrit à une communauté de chrétiens qui a été un peu troublée, parce qu'ils ont reçu une lettre d'une personne qui se faisait probablement passer comme étant un collaborateur des apôtres. Et ils ont troublé les Thessaloniciens en leur disant que la fin est déjà là, la résurrection est imminente. Et l'apôtre Paul va leur dire, ne vous laissez pas troubler, car il y a un certain nombre de choses qui doivent arriver avant. Le fait que vos circonstances paraissent indiquer la fin ne suffit pas à croire que c'est la fin. Un dernier élément qui aurait pu porter les premiers chrétiens à penser que la destruction du temple et les événements chaotiques seraient l'indication de la fin du monde et du retour du Christ, c'est la frayeur dont Jésus fait mention. Regardez avec moi au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Et c'est compréhensible quand on y pense. Nous sommes, dans toutes les générations, très centrés sur nous-mêmes, sur notre époque. Et nous pouvons facilement avoir tendance à oublier l'histoire, même parfois assez récente. Ça fait partie de notre nature. Nous vivons le temps présent et notre mémoire, souvent, se limite à quelques années en arrière. Et du coup, si nous vivons dans une époque relativement calme, il n'y a jamais eu d'époque complètement calme, mais si notre époque est relativement calme, eh bien, lorsque des événements tragiques, chaotiques et d'une grande ampleur arrivent, et qui sont, je dirais, si troublants qu'on se demande, mais derrière, peut-il y avoir encore la vie? Vous voyez comment nous pouvons vite arriver à la conclusion que certainement nous sommes à la fin. Et la frayeur nous saisit et oriente nos choix. Mais Jésus dit que ce n'est pas la fin. Je relis le verset 8. Tout cela sera le commencement des douleurs et non pas la fin des douleurs. Regardez avec moi encore. De nouveau, le verset 6, la fin du verset 6. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que les premiers chrétiens étaient les premiers à être témoins de guerre? Non. Est-ce qu'ils étaient les premiers à être témoins de pandémie, de peste, de famine? Non plus. Et nous ne sommes pas non plus les deuxièmes dans l'histoire, les seconds après les apôtres, à vivre de telles circonstances. À l'époque de la Réforme aussi, beaucoup ont pensé que le retour du Seigneur était imminent pour différentes raisons, mais notamment à cause de la grandeur de l'immoralité dans le clergé, à cause aussi d'un certain nombre de pestes ravageuses. Et nous voilà 500 ans après, la fin n'est pas encore. Donc, on pourrait dire que si les catastrophes du monde sont l'indication que notre monde va mal, ça c'est vrai, si la Bible aussi nous dit que ces choses vont aller croissant et augmentant, ce qui est vrai, ce n'est pas un indicateur suffisamment fiable pour nous repérer dans le calendrier de Dieu. Et vous voyez, avant de passer à la suite, je crois que pour nous, il y a beaucoup d'applications importantes et concrètes. En particulier par rapport à la question des faux prophètes et à la question de la frayeur. Si nous nous laissons égarer et tromper par de prétendus prophètes qui prétendent parler au nom de Jésus et nous annoncer que la fin est là, que la résurrection est arrivée, comme certains l'ont fait à l'époque des apôtres. Il y a ici deux risques. Le premier, c'est celui de la mondanité. Et le second, celui d'être sectaire. Alors peut-être vous ne voyez pas tout de suite le lien, mais j'essaye d'expliciter. Eh bien, si nous considérons que Christ est déjà revenu, comme certains l'ont pensé, ou que la résurrection a déjà eu lieu, comme certains le disent, même aujourd'hui dans certaines églises protestantes, eh bien la conclusion logique, c'est la mondanité. Ben oui, le Seigneur est revenu, la résurrection finalement a eu lieu, et quasiment rien n'a changé. Le péché est encore là, alors finalement, acceptons-le, puisque c'est une chose visiblement nécessaire. Son existence est incontournable. Et si la résurrection a déjà eu lieu, pourquoi chercher et attendre? Pourquoi chercher ailleurs et attendre d'ailleurs notre bonheur? Ici et maintenant, aujourd'hui et tout de suite. Et vous voyez du coup comment cette erreur peut nous conduire finalement à être très mondains, très terrestres dans nos attentes, dans nos espérances, dans nos aspirations. J'ai dit que le risque aussi, c'est d'être sectaire. Là, c'est l'autre extrême de l'erreur, de penser que le Christ est déjà revenu, que la fin du monde est maintenant, tout de suite, déjà arrivée. Sectaire parce que certains de ces prophètes cherchent à attirer des adhérents à leur suite et vont avoir tendance, du coup, eux qui sont conscients, hein, les seuls à être conscients que c'est la fin du monde, à vivre en vase clos. Nous les purs, mettons-nous à part du reste des souillés. Et vous voyez comment nous sortons ensuite du plan de Christ qui est que nous soyons des lumières pour le monde en tout temps. Application aussi par rapport à la frayeur. Quel est l'un des effets presque systématiques de la frayeur, de la crainte, de la peur, lorsqu'elle n'est pas raisonnée? N'est-ce pas de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous rendre tellement préoccupés par notre survie et notre bien-être que nous en oublions de servir ceux qui nous entourent? Et ces inquiétudes sont très concrètes. Hein, pensez aux médias, et aux informations, et à nos collègues et à nos voisins, notamment ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Les prix qui augmentent, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, les vêtements, les loyers qui augmentent, le travail, etc., etc., etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucune place pour la réflexion à ces sujets. Mais souvenez-vous ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31-32. Vous pouvez prendre avec moi Matthieu 6, 31-32. Nous sommes dans le contexte du sermon sur la montagne, et c'est un peu le programme, la règle de conduite des disciples du Seigneur, des artisans du royaume des cieux. Quel est notre mot d'ordre? Eh bien, vous les trouvez dans les chapitres 5, 6, 7, le sermon sur la montagne. Et versets 31 et 32, nous lisons « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Une traduction plus littérale, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Autrement dit, vous savez aussi ce que le Seigneur dit quelques versets plus loin, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Autrement dit donc, si nous sommes préoccupés à cause d'une frayeur mal informée, préoccupés de notre bien-être, de notre survie, de notre condition de vie sur terre, nous risquons de devenir inutiles et indisponibles pour le service du royaume des cieux. On ne peut pas, comme dit le dicton, suivre deux lièvres à la fois. Une transition vers le deuxième point. Maintenant que les apôtres sont informés, maintenant que le Seigneur les a avertis en leur disant, vous voyez, il y a tous ces événements qui vont arriver, mais ce n'est qu'un commencement, ce n'est pas la fin. C'est comme si ensuite le Seigneur va orienter leur regard, et avec eux, nos regards, vers ce qui doit être la priorité, ce qui doit être la première des préoccupations, et ce qui est le vrai indicateur du retour prochain, ou non, du Seigneur. Regardez avec moi verset 14. Donc nous sommes retournés dans Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est une réponse donc concrète à la question des apôtres au verset 3. Hein, souvenez-vous, quel sera le signe de ce que tu annonces concernant la destruction de Jérusalem et le signe aussi de ton retour et de la fin du monde. Pour prendre encore une autre illustration, c'est comme si le Seigneur nous dit, vous voyez, il y a une série de cadrans, il y a un tableau de bord et plusieurs cadrans avec des aiguilles. Et plusieurs de ces cadrans vont s'agiter et être au maximum dans le rouge. Guerre, rumeur de guerre, famine, problèmes écologiques, problèmes sociétaux en tout genre, problèmes moraux. Mais quand bien même ces aiguilles de tous ces cadrans seraient dans le rouge, vous n'avez pas là un indicateur suffisamment fiable concernant la proximité ou non de mon retour. Le cadran que vous devez fixer, si vous voulez avoir une idée plus juste d'à quel point je suis proche ou non de revenir, c'est le cadran de la mission. C'est l'aiguille qui indique à quel point le monde a été évangélisé ou non. Alors viendra la fin. Ça nous amène donc à notre deuxième et dernier point. Nous avons vu la bonne analyse de la situation actuelle. Et je précise juste rapidement, donc concrètement, pour rendre les choses très actuelles, que la guerre en Russie se termine cette semaine ou qu'elle s'envenime en une troisième guerre mondiale, nous n'avons pas là assez d'éléments pour dire que le retour du Seigneur est proche ou non. Qu'il y ait une pandémie l'année prochaine plus terrible que le Covid, que la crise économique augmente au point que dans 10 ans, nous ne reconnaissions plus notre mode de vie, nous n'aurions pas là des indicateurs suffisamment fiables concernant l'imminence du retour de Christ. Il suffit de regarder l'histoire depuis 500 ans et même depuis 2000 ans que le Seigneur est venu, et nous pourrions voir des périodes similaires où tout semblait indiquer que le Seigneur reviendrait bientôt. Sauf la mission. Deuxième point donc, la priorité dans la situation actuelle, la bonne priorité. Juste un rappel, la Bible utilise plusieurs expressions pour désigner la période qui se déploie entre la première venue du Christ et sa seconde venue. Il y a des expressions diverses comme les derniers temps, ça paraît étonnant, hein, mais en fait, depuis que le Christ est venu, nous sommes dans les derniers temps. On voit cette expression notamment dans 2 Timothée au chapitre 3. Une autre expression, c'est les temps de douleur. Et nous voyons que le Seigneur l'utilise ici. C'est le commencement des douleurs. Et il y a une expression que l'on va trouver aussi dans Romains chapitre 11 et dans une prophétie de Daniel qui s'appelle, c'est le temps des nations. Vous voyez, il y a eu le temps où Israël était le canal principal de Dieu sur la terre et nous sommes dans le temps des nations. C'est cette période qui nous sépare, ou plutôt qui sépare la première de la deuxième venue. On pourrait dire l'âge de l'Église. Quelle est donc cette bonne priorité? Nous l'avons lu, verset 14, c'est celle de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités du monde. Et pour ce deuxième et dernier point, j'aimerais répondre à 4 questions. D'abord, quoi? C'est quoi cette mission concrètement? Deuxième question, qui est concerné? Troisième question, comment? Et dernière question, quelle motivation devrions-nous avoir pour nous impliquer dans cette priorité, dans cette tâche prioritaire? D'abord donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de faire connaître. Le mot « nation » ici, c'est « ethnos » en grec, à toutes les ethnies, et pas simplement à tous les pays, dans notre compréhension moderne. Et si je donne cette précision, c'est parce que il existe aujourd'hui autour de 16 000 groupes ethniques, selon les recensements des spécialistes. Et les spécialistes de la mission nous disent que plus de 40% de ces groupes ethniques n'ont jamais eu le moindre témoignage concernant Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je fais le calcul, 2000 ans, 60%, je dirais que la tâche est encore grande, non? Et ça fait sens quand nous lisons dans Luc chapitre 10 le Seigneur dire « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. » Littéralement, il dit « Priez le maître de la moisson qu'il fasse pousser des ouvriers dans sa moisson. » Donc cette tâche, c'est d'annoncer les vertus de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur, le fils d'Abraham, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, et le fils de David. Celui qui est la source de bénédiction pour tous les peuples, pour toutes les ethnies, pour des hommes et des femmes de toute langue et de tout pays. Il est le fils de David, c'est-à-dire celui qui a hérité du règne sur le monde entier. Et son règne vient, inarrêtable. Daniel l'a annoncé dans cette vision où il voit quatre royaumes qui se succèdent et qui vont être ensuite pulvérisés par un royaume qui ne vient pas de la terre. C'est cette grande montagne, cette pierre qui descend du ciel et qui vient pulvériser la statue faite de différents matériaux, qui représentaient différents empires humains. Et il nous dit que ce royaume est sans fin, éternel, le règne de Dieu et de son Messie. Et notre message est le suivant. À la suite des apôtres dans les Actes, nous devons proclamer aux nations et à ceux qui nous entourent, Dieu, après avoir laissé les nations dans des temps d'ignorance, commande, pas simplement invite, commande aux hommes qu'ils se repentent et qu'ils croient. C'est la parole du roi. Il dit, vos rébellions doivent cesser, elles auront un juste jugement et une rétribution sans faille. Mais nous sommes dans un temps de grâce, et voilà mon commandement. Venez, entrez, venez recevoir la grâce, l'effacement de votre dette, le pardon de vos péchés, et une participation éternelle à mon règne. D'où le titre « Bonne nouvelle ». Parce que ce n'est pas un message que nous méritons, ce n'est pas quelque chose que l'humanité mérite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce verset est clair. Ce n'est pas « le monde est si aimable que Dieu a donné son Fils unique », mais Dieu a tant aimé le monde. La source de cette bonne nouvelle est en Dieu et non pas en nous. Avant de passer à la deuxième question, nous voyons quelque chose ici du cœur de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a dans cette main les fléaux finaux, le jugement terminal, les dernières catastrophes qui vont mettre fin à ce monde et sa rétribution. Et dans l'autre main, il a la grâce, le pardon, le salut de l'âme. Et voilà ce que fait Dieu. Cette main gauche qui tient le jugement, il la tient en arrière. Il retarde son courroux. Et il est en train de tendre aux hommes de toutes les nations son pardon, sa miséricorde, sa compassion, sa patience. Au point que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul diront chacun, l'un et l'autre, « La patience du Seigneur est notre salut. » Vous voyez le cœur de Dieu ? Il est en droit de juger le monde dès aujourd'hui. Mais c'est comme s'il nous disait, ma priorité, c'est que toutes les nations sachent que je veux les sauver. Qui est concerné par cette tâche, par cette priorité? Eh bien, je dirais que tous les disciples, si vous êtes chrétien, que vous soyez dans le ministère à plein temps ou pas, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un grand orateur ou non, que vous connaissiez tous les arguments pour défendre la foi ou que vous n'en connaissiez aucun, si vous êtes témoin de cette grâce, si vous êtes disciple et, je dirais, sujet du royaume de Christ, de ce roi d'amour, alors vous êtes concerné par cette tâche. Vous n'avez pas tous précisément le même rôle, mais vous êtes tous concernés par cette tâche. J'en veux pour preuve, rapidement, deux preuves. Matthieu chapitre 28, si vous voulez bien tourner avec moi. À partir du verset 19, le Seigneur est ressuscité et le voilà donnant les dernières consignes, dernières paroles et promesses à ses apôtres. Et il dit, verset 19, « Allez donc, je vais même commencer au verset 18, ce serait dommage. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors peut-être en lisant ça, si vous êtes assez vif, assez rapide, que je ne vous ai pas trop endormi, vous vous dites peut-être, mais là, Jésus parle aux apôtres. Et tu nous as dit que c'est une preuve que nous sommes tous concernés. Eh bien, verset 20, enseignez-leur à mettre en pratique une partie de ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai prescrit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur vient de leur prescrire? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous avons donc là un commandement clair. Nous sommes concernés par la mission, d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais vous donner une deuxième preuve. On se trouve dans le livre des Actes. Je vous fais un peu voyager, mais si vous voulez bien ouvrir dans le livre des Actes, au chapitre 8. Nous sommes après la Pentecôte, et à Jérusalem, l'église naissante vient de vivre, je dirais, le premier martyr. Étienne a été lapidé, on peut le lire au chapitre 7, et on va voir que le message de l'évangile ne va pas être ralenti, mais c'est comme s'il va y avoir un déclic. Mais si vous regardez avec moi ce déclic, ce n'est pas les pasteurs, ce ne sont pas les évangélistes, parce qu'il n'y en avait pas encore précisément à cette époque-là. Il y avait les apôtres, mais ce n'est pas eux non plus qui sont à l'origine de cette explosion d'évangélisation. Lisez avec moi. À partir du verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Alors je saute au verset 4. Que faisaient ceux qui se dispersaient un peu partout? Alors certainement, beaucoup d'entre eux ont retrouvé un travail. Ils se sont installés ailleurs, ils ont vécu et essayé de retrouver une vie normale. Et en même temps, nous lisons verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Ils sont tous dispersés, à l'exception des apôtres, et tous ces dispersés annoncent la parole. Et frères et sœurs, ce matin, vous faites partie de ces dispersés. Nous ne sommes pas tous au même endroit dans la semaine. Nous venons et vivons à des endroits différents. Nous avons des relations et des réseaux différents. Ça représente cette dispersion, n'est-ce pas? Nous sommes rassemblés là, puis nous nous dispersons. N'oublions pas de lieu en lieu, de travailler à cette tâche. Maintenant, comment ? Je vous l'ai dit, nous n'avons pas forcément tous exactement le même rôle dans cette mission. Et Dieu soit loué, parce que ça montre sa sagesse. Il connaît nos personnalités, il connaît nos forces, nos faiblesses, nos limites. Il nous fait des dons différents les uns les autres. Mais permettez-moi de faire une liste rapide, je ne vais pas trop la détailler et la commenter, une liste d'exemples de comment on peut contribuer à cette tâche. D'abord, en expliquant la raison de l'espérance qui est en nous. Et là, peut-être certains se disent « Oh, là tu es en train de dire du coup de parler ». Oui, je suis en train de dire qu'il faut qu'on parle. Que penseriez-vous d'une maladie ravageuse, mortelle, qui a touché chaque être humain? Et voilà un homme ou une femme travaillant dans son laboratoire, par la grâce et la providence de Dieu, vient de trouver un remède complètement efficace. Elle s'injecte ce remède, guérit de cette maladie, et se dit oh, « quelle bonne nouvelle, il faudrait que tout le monde le sache. » Mais je n'ai jamais été vraiment un orateur, une oratrice. On n'imagine même pas une telle scène, n'est-ce pas ? Cette personne, quel que soit son langage, quel que soit le nombre de mots de vocabulaire qu'elle possède, s'il faut même faire des signes et paraître un peu fou, il s'agit de sauver des vies, par millions et par milliards. Nous devons être prêts à expliquer simplement l'espérance qui nous anime. Et j'aimerais vous donner deux pistes si vous vous sentez en difficulté par rapport au fait du langage, il y a des occasions qui se présentent à nous simplement. Lorsque les gens actuellement vous disent, que ce soit des collègues, des membres de famille, des voisins, « Oh là là, ça augmente encore. Oh là là, la guerre en Ukraine et en Russie. » Des inquiétudes légitimes qu'on peut comprendre lorsqu'on n'a pas d'espérance au-delà de ce monde. Eh bien, pourquoi ne pas sauter dans la brèche sans aucune finesse et dire « Mais tu sais, moi, je ne suis pas trop inquiet en réalité, parce que je crois en Jésus. » Mais oui, en fait, c'est logique, n'est-ce pas ? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et je crois ce que la parole dit, et elle me donne vraiment de l'espérance par rapport à l'avenir. Pas par rapport à ce monde, c'est certain, hein, mais... Et la personne peut-être vous en demandera plus, peut-être pas. Mais vous avez déjà semé quelque chose. Mais ce n'est pas que les personnes qui manquent d'espérance. Celles aussi qui ont plein d'espérance et qui se disent « Ah, moi ça va, je ne suis pas trop inquiet, j'ai mon plan d'épargne, j'ai trouvé de super moyens de placement et... » Occasion ! Waouh, ok. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses que ça va... t'apporter par rapport... Tu as considéré la question de la mort, parce qu'en réalité, nos trésors, on ne va pas les emporter. Alors ça paraît gros, encore une fois, mais moi je pose la question simplement. Croyons-nous en ce que nous disons croire? Ok, j'avance. Autre manière de participer à la mission, la prière. Prions pour des occasions. Freddy le disait, je crois, la semaine dernière ou il y a quelques jours, et c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Souvent, je réalise que quand je prie spécifiquement le Seigneur d'avoir des occasions, eh ben, comme par hasard avec un grand D, j'ai des occasions d'annoncer l'Évangile, de parler, de dire quelque chose de Christ. Prions pour des occasions. Prions pour les autres chrétiens autour de nous. Partageons les uns les autres, et certains le font déjà, et j'encourage à ce qu'on le fasse encore plus. Des sujets de prière. Tiens, j'ai tel membre de ma famille, tel collègue, telle occasion potentielle. Est-ce qu'on pourrait prier que le Seigneur me donne la sagesse de parler une parole qui soit assaisonnée de sel et de grâce. Si l'apôtre Paul demande aux Colossiens de prier pour lui, pour qu'il parle comme il faut, je crois que c'est qu'on a aussi besoin, nous-mêmes, de prier les uns pour les autres. J'ai parlé tout à l'heure de la mission, 41% des nations, en tout cas des ethnies, au minimum, qui n'ont jamais entendu rien de l'Évangile. Oh, supplions le Seigneur, la moisson est si grande. Je plaide que dans nos églises, nous réapprenions ces anciens cantiques de mission qu'on ne chante plus. La moisson du monde est si grande. Suscite donc des serviteurs. Que ton esprit en eux abonde. Bénis, ô Dieu. Leur cœur, quelque chose comme ça. Il y a tant de cantiques qui pourraient nous exhorter, nous encourager, nous souvenir que la tâche est encore grande. Autre moyen, ce que nous avons dans les poches. Nous n'en avons pas toujours, nous n'en avons pas non plus autant les uns que les autres, peu importe. Le Seigneur nous accueille non pas en fonction de ce que nous avons, mais en fonction de la disposition de cœur. Mais pour être très concret, la mission a besoin aussi d'argent. Il y a beaucoup de missionnaires sur des champs étrangers qui sont dans des conditions exécrables. Et souvent, ce qu'ils demandent en termes de soutien, c'est même pas tant pour forcément mieux manger, mais un peu d'argent pour financer tel projet de traduction, imprimer tel matériel pour distribuer à tel et tel village qu'ils sont en train d'évangéliser. Renseignons-nous, il existe des moyens de participer. Et je vous encourage, demandez à Freddy, à Gilles en particulier, dans notre assemblée ici, qui connaissent aussi des missions où on peut participer et soutenir. Je l'ai dit tout à l'heure, nos relations, parfois même aussi le témoignage non-verbal est important au travail. Est-ce que je suis connu pour être le râleur de service? Est-ce que je suis connu pour être le moralisateur de service? Est-ce que je suis connu, en fait, pas plus que les autres parce que je ne suis pas différent? Là aussi, ce serait un problème. Prions le Seigneur de nous montrer comment on peut être... une lumière. Et vous le faites, j'en suis certain, mais continuons de le faire. Et soyons intentionnels. Bonnes actions, les œuvres sociales. Une sœur mentionnait le fait qu'il y avait des apparemment SDF à Saint-Quentin. J'en ai pas vu régulièrement. Mais on a eu effectivement un récit de Rebecca il y a quelques semaines. Et moi, j'encourage. Pourquoi ne pas se réunir à quelques-uns qui seraient intéressés par ça et se dire, ok, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça ne demande pas une organisation très exceptionnelle, mais c'est concret. Et on fait avancer le royaume. Le porte-à-porte. J'ai dit le mot à ne pas prononcer. Celui qui fait trembler les chrétiens et qui donne des sueurs froides à ceux qui considèrent que c'est trop bizarre. Alors, je ne suis pas en train de vous exhorter tous à faire du porte-à-porte, et j'entends que ce n'est pas l'appel de tous, mais... j'encourage néanmoins à faire l'expérience au moins une fois, en accompagnant quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Rien que le fait de le voir, je vous assure que ça peut être extrêmement édifiant et motivant, ne serait-ce que pour prier ensuite, régulièrement, pour ceux qui le font. Et réaliser que, bah, en fait, vous avez commencé à faire du porte-à-porte et vous n'êtes pas mort. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu encore à souffrir d'une balle de carabine de quelqu'un qui souhaitait me faire fuir. Alors des portes s'ouvrent, puis se referment immédiatement. Des portes ne s'ouvrent pas. Des portes s'ouvrent et on a une discussion sur le palier. Et comme hier, la porte s'ouvre, on me fait entrer et je discute 45 minutes, une heure. C'est le Seigneur qui prépare. Deux dernières pistes, et je vais arriver au dernier point qui sera plus court. J'ai conscience que j'ai été peut-être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Distribution. Ça, c'est là quand même la version simplifiée du porte-à-porte. On a des traités qu'on a lus, évidemment, parce qu'on ne veut pas distribuer n'importe quoi. On les a lus, on trouve que c'est assez convaincant, assez bien présenté, et on met dans des boîtes à lettres. Et frères et sœurs, puis-je dire, alors tout le monde n'est pas concerné de la même manière, mais je le dis de manière générale, et que le Seigneur fasse entendre à ceux qui ont besoin de l'entendre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit normal, que ce soit moi ou un tel ou un autre qui aille dans votre quartier, chez vos voisins ou auprès de vos voisins, pour mettre un traité dans leur boîte aux lettres. Je me trompe peut-être, je vous dis que là je pense que ce n'est pas tout à fait normal. Et enfin, une autre piste, des études, un à un, des lectures de la Bible. Pourquoi ne pas organiser des groupes, proposer à une connaissance avec qui vous vous entendez bien. Mais tiens, est-ce que ça te dirait, moi je lis régulièrement la Bible, et j'aime bien voilà, proposer aux gens aussi de le faire, est-ce que ça te dirait de lire la Bible, ou un livre, trouver un bon livre chrétien. Et vous serez étonné du nombre de personnes qui sont prêtes à y réfléchir. Vous n'aurez peut-être pas systématiquement des gens qui acceptent, mais dans vos relations, des gens que vous connaissez assez bien, vous seriez étonné. Enfin, nous avons notre part en tant que responsables pour vous équiper. Et je reconnais qu'il y a la nécessité pour nous aussi de proposer un certain nombre de choses, comme on est en train d'y réfléchir avec Freddy. Ok, motivation maintenant. On a vu ce qu'est cette tâche prioritaire, l'évangélisation du monde. On a vu qui est concerné. Vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés. Nous avons vu différentes pistes de nous impliquer dans cette tâche. Et maintenant, motivation. Trois motivations rapidement. Servir Dieu et obéir au Seigneur. Ça devrait suffire. En réalité, je n'aurais même pas besoin d'aller plus loin. Mais nos cœurs humains ont besoin souvent de plus de motivation que ça, malheureusement, à cause du péché. Mais servir Dieu et obéir à celui qui a aimé nos âmes au point de se donner et de se livrer en sacrifice. Comment pouvons-nous espérer que ceux qui nous entourent obéissent au Seigneur, auquel nous-mêmes souvent nous sommes lents à obéir? Deuxième motivation, ressembler au Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'affirme quelque chose qui n'est pas souvent affirmé, mais dont je suis convaincu, et je pourrais, pas maintenant, ce serait long, mais le montrer dans la Bible à un autre moment. Les hommes et les femmes, chrétiens et chrétiennes, qui ont le plus ressemblé au Seigneur Jésus, étaient en même temps ceux qui étaient les plus concernés par l'avenir éternel de ceux qui les entourent. Je répète. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, ceux qui ont le plus ressemblé à notre Seigneur Jésus que nous aimons et auquel nous voulons ressembler, ont été des hommes et des femmes parmi les plus concernés, les plus préoccupés par le salut des âmes. Vous pouvez penser à tous ces missionnaires que nous admirons, mais aussi à ces hommes et ces femmes inconnus que les uns et les autres nous avons connus et qui nous ont marqués, n'est-ce pas ? Ah, je me souviens de cet homme. Ah, je me souviens de cette femme. Et la caractéristique, souvent, c'était l'amour pour les autres. L'amour. Troisième et dernière motivation pardon, que je vous propose. Il y en aurait d'autres, mais je m'arrête ici avec cette dernière motivation. L'amour du retour de Christ. Allez, je vous redemande un peu de concentration pour finir. Matthieu 24, verset 14. Suivez avec moi la logique. Le Seigneur nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée à toutes les nations du monde pour leur servir de témoignage. Alors viendra la fin. J'essaie d'avoir une logique assez simple. Donc Seigneur, tu nous dis que lorsque la mission est finie, tu reviens. Paul nous dit qu'il y a une couronne de justice réservée à tous ceux qui ont attendu la venue, l'apparition du Seigneur avec amour. Mes frères et sœurs, voilà une motivation à la mission. précipiter, accélérer le retour du Seigneur que nous voulons voir face à face. On a prié tout à l'heure dans ce sens. Voir mon Sauveur face à face. Et il est avec moi, comme il l'a dit aux apôtres, dans la mission, de manière toute spéciale. Au verset 12, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Permettez-moi de conclure avec cette exhortation. Le Seigneur parle de l'amour et il parle de la mission dans le même contexte. Si vous voulez avoir un bon thermomètre de votre amour pour le Seigneur, demandez-vous à quel point vous êtes concerné par l'avenir éternel de ceux qui vous entourent. Ce n'est pas le seul critère. Mais c'est un bon critère, un bon thermomètre. Si vous êtes bouillant ce matin, que Dieu vous bénisse et vous encourage à l'être encore plus. Et il y en a qui le sont probablement parmi nous. Si vous êtes tiède, recevez l'exhortation. Revenez au premier amour, Christ. Réalisez qu'il n'est pas juste et pas bon d'être tiède pour un tel sauveur. Nous avons du zèle souvent pour nos chefs, pour nos patrons, pour ceux qui nous entourent. Et je le dis en rougissant et en ayant honte. Je me suis levé à l'heure pour aller au boulot pendant des années. Et combien de fois je me lève en retard quand j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Et je ne pense pas faire partie des bouillants et donc je prends cette exhortation pour moi en particulier. La mission est un bon thermomètre. Ayons la bonne analyse donc de la situation actuelle. Le chaos de notre monde n'est pas l'indication que le Seigneur revient forcément bientôt. Et ayons la bonne priorité au milieu du chaos actuel, répandre le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fortifie. Amen.